Merci d'avoir votre silence.
Ah, tu peux commencer.
So, hi everyone. Welcome all to the 6th Family Medicine Student Symposium. My name is Pascal Fugère. I am the co-president of the organization committee. It is with great honor that we receive all of you today from the 5 universities, so University of McGill, University of Ottawa, Université de Montréal, Université de Laval, et Université de Sherbrooke.
Alors, bienvenue à tous et à toutes au 6e symposium étudiant de médecine familiale. Je m'appelle Nadine Chatta, je suis coprésidente également du symposium. Alors, au nom de la faculté de médecine de l'Université McGill et notre comité, nous vous souhaitons à tous et à toutes les bienvenues sur notre campus. Alors, c'est avec un grand honneur et plaisir que nous accueillons parmi nous les universités McGill, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Laval, ainsi que l'Université d'Ottawa.
So first of all, we would like to start our speech by thanking everyone that has been so helpful throughout the whole organization of this event. So first and foremost, the Faculty of Medicine, Dr. Eidelman, Vice-Principal and Dean of the Faculty of Medicine, Dr. Bergman, Chair of the Department of Family Medicine, Dr. Lala, Undergraduate Program Director, Assistant Professor, and Longitudinal Program Director of the Department of Family Medicine, Suzanne Gomez, Undergraduate Program Coordinator of Family Medicine, Diana Colby, Communications Manager, Leo Teatero, Academic Event Administrator, and Chris Foote, System Analyst, MedIT.
Alors, nous adressons également nos sincères remerciements à tous nos commanditaires que vous voyez derrière nous pour leur générosité et leur présence parmi nous aujourd'hui. Alors, pour commencer, nous remercions le ministère de la Santé et des Services Sociaux, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, l'Association médicale du Québec, le Collège québécois des médecins de famille, le Collège des médecins de famille du Canada, les médecins francophones du Canada, SAROS, donc le soutien aux régions pour le recrutement des omnipraticiens et des spécialistes, la Fédération des médecins résidents du Québec, la Banque nationale du Canada, la Fédération médicale étudiante du Québec, ce n'est pas encore fini, le Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la baie James, APC Management et Gestion JACAD. Alors, nous vous rappelons également que les représentants des différentes universités, donc l'Université de l'Université McGill, l'Université de Laval, l'Université de Montréal, ainsi que l'Université de Sherbrooke, donc les représentants de ces universités-là sont ici parmi nous. Nous vous invitons fortement à aller visiter leur kiosque pour plus d'informations. Donc, vous avez plusieurs pauses pendant la journée. Ça peut se faire donc pendant les pauses entre les conférences et les ateliers, ainsi que pendant l'heure du lunch, du dîner. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'en fin de journée, nous avons l'équivalent d'un 5 à 7, donc le vin et tapas. Sinon, un grand merci également à tous nos bénévoles. Alors, vous allez les reconnaître avec leur t-shirt rouge. Je pense que ça a été déjà pas mal clair qu'ils sont un peu partout sur notre campus. Donc, n'hésitez pas à leur demander pour toute question d'orientation sur notre campus. Ça leur fera plaisir de vous guider.
I would like to continue on by thanking all the speakers who have dedicated a bit of their busy time to be here and share their passion with us today. So a big thank you to all the speakers. You can find their specific names inside the booklet and behind me right now.
Donc, c'est ça, en fait, comme vous le voyez dans votre pamphlet, nous avons toute une liste d'ateliers, ainsi que, bon, vous pouvez voir les noms des médecins de famille ainsi que les résidents qui vont présenter ces ateliers-là. Alors, c'est sûr que nous remercions les médecins de bien vouloir partager leur expertise avec nous aujourd'hui. Donc, fiez-vous au pamphlet pour plus de détails.
I would like to end this speech by thanking the committee who has been obviously so helpful throughout the whole organization of this event and has dedicated so much of their time to be here. So unfortunately they can't be here behind us, but so we put a picture instead. But a big thank you to all of them. And if ever any of you guys have a question, as you can notice, they're wearing a black t-shirt, and they'll be very happy to help you for anything. Now I would like to continue on by asking you to take out the little booklet that most of you already have in your hands, and to go to page two, where it says agenda of the day. So I'm just going to help you a bit go through it, and then Nazine will say the French version. Good. So as you probably all noticed, you were separated into two groups at the beginning of the day, Group A and Group B. Group A is starting at the McIntyre, so this building, whereas Group B is starting with the workshops that can either be at New Residency or at the SIM Center. So you will have volunteers throughout the day that will help you find your way between all these buildings. Once again, red t-shirts if ever you get lost. And there's also a little map that you can find under the agenda of the day that will help you direct yourself. If ever you need, obviously when you get into the building, the specific location, you should have that all on your name tags. You have a personalized schedule with the time, the specific workshop, and the location. So please refer to it, and if ever there's an issue, once again, come and see us. So after that, after your first block A, block B, we will find each other once again here for dinner, during which we will obviously serve free food, and we invite you to go visit the kiosk. Once again, they have very interesting things to offer, so feel free to visit them. And at 2, please don't forget to come back here in the Palmer and Martin Amphitheater for nice speeches from three of our big sponsors, so FMOQ, QCFP, so Quebec College Family Physician, and CFPC. It's going to be very interesting, so please don't miss that. Finally, we will end the day with a little wine and tapas from 5 to 6:30. This is a great opportunity for you to meet people, have free food, and especially, always a good detail, and especially network a bit with the residents, the workshop leaders, the staff, and even some members of the executive family medicine McGill group. So it's going to be very interesting. So please don't miss on that. Finally, a few safety and security issues. Try to, when you get into a building, try to always notice all the exits, the emergency exits, in case anything was to happen. Also, unfortunately, we cannot be held responsible if something was to get stolen. So just try to keep your belongings with you throughout the day to make things easier. Finally, as you probably noticed inside your little bags, you each have a water bottle. So this was our way to trying to be a bit more environmentally friendly. Please feel free to use it as much as possible throughout the days. You should find water fountains pretty much everywhere. So please try to use them instead of taking the plastic bottles. Thank you.
Donc je vais juste répéter l'information que Pascal vient de le dire en français pour que nos amis les francophones soient sûrs que tout soit clair, pour que le déroulement du symposium se fasse à merveille. Alors je vous invite à prendre le pamphlet qui vous a été donné ce matin. Donc comme vous le voyez, une partie en anglais, une partie en français. Donc si vous êtes plus à l'aise en français, alors je vous invite à la lire avec moi. Donc, comme vous le voyez dans le pamphlet, nous avons deux groupes. Alors, le groupe A et le groupe B. Alors, le groupe A vont commencer avec les conférences, le groupe B vont commencer avec les ateliers. Donc, pour question d'orientation, vous êtes dans un bâtiment qui s'appelle le McIntyre, d'accord? Alors, c'est ici que vont se dérouler les conférences. Pour ce qui est des ateliers, par contre, vous allez vous déplacer, il faut aller à un autre bâtiment qui s'appelle le Simulation Center. Alors, pour les proches, on l'appelle le Sim Center. Alors, pour le va-et-vient entre les deux bâtiments, il y aura des bénévoles tout au long du chemin pour vous guider. Donc, n'ayez pas de crainte, vous allez être bien guidé pour faire le voyage entre les deux bâtiments. Et puis, vous avez la carte aussi dans le pamphlet au cas où. Sinon, mis à part ça, c'est sûr que On vous invite fortement à assister aux conférences. On a des présentations très intéressantes qui vont se donner à l'heure du lunch, à l'heure du dîner, comme vous le voyez dans le pamphlet. Donc on vous invite très fortement à assister à ces conférences-là. Et aussi, bien entendu, à profiter de l'ampleur de la nourriture qui va être présente ici aujourd'hui, ainsi que les kiosques qui sont au 5e étage et au 6e étage. Maintenant, bien entendu, on va finir la journée avec en douceur, avec harmonie, avec de la musique accompagnée aussi. Donc, c'est l'équivalent du 5 à 7 qu'on appelle le vin et tapas, qui va se dérouler à 5 heures, de 5 à 6 heures 30. Et bien entendu, ça sera une excellente opportunité pour vous donc de faire du réseautage avec les médecins de famille de notre campus, donc de l'Université McGill. Sinon, pour des questions de sécurité, on vous invite aussi à regarder les signes donc de sortie de secours au cas où. Donc on va espérer que tout va bien se passer pendant la journée, mais on préfère vous prévenir d'être alerte au cas où il y a une urgence pendant le symposium. Et puis, on a opté pour une signature écologique. Donc, comme vous l'avez déjà remarqué, il y a des bouteilles dans vos sacs. Donc, on va vous inviter à remplir vos bouteilles d'eau qui sont présentes. En fait, on a des fontaines d'eau qui sont présentes un peu partout sur le campus. Donc, voilà pour ce qui est des détails. Je pense que j'ai rien manqué. Alors, maintenant, la prochaine étape, ça serait pour moi de présenter une sommité dans notre faculté. Dr. Howard Bergman. Alors, Dr. Howard Bergman est directeur du département de médecine de famille, professeur titulaire des départements de médecine de famille, médecine et oncologie, et titulaire de la chaire Dr. Joseph Kaufman en gériatrie de l'Université McGill. Alors, Dr. Bergman est fellow du Collège des médecins de famille du Canada et du Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada. Il est aussi fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Alors, il a été un fervent champion dans les domaines médicaux suivants. Soins de première ligne, maladies chroniques et vieillissement. Écoutez bien ça. En tant que membre de la commission Claire, il a rédigé la recommandation qui a donné lieu au GMF, groupe de médecine familiale. Il est l'auteur du plan Bergman, proposant le plan Alzheimer du Québec, actuellement mis en œuvre. Il était membre du comité d'experts de l'Académie canadienne des sciences de la santé sur les maladies chroniques, dont est issue la recommandation sur le rôle central des soins de première ligne. Alors, grâce à la publication de plus de 160 articles dans les revues scientifiques avec révision par les pairs, il est reconnu à l'échelle internationale pour ses travaux de recherche dans le domaine des services et des politiques de santé, du vieillissement, de la fragilité et de la maladie chronique. Alors, je vous invite à accueillir très chaleureusement avec moi aujourd'hui Dr. Howard Bergman.
Merci beaucoup, Nadine et Pascal. Merci pour cette introduction. Si c'était vrai, ce serait encore plus intéressant. écoutez, je suis très content de vous accueillir. De ce grand nombre d'étudiants en médecine. Et vous savez, en signant à l'inscription, vous avez pris l'engagement de commencer la médecine de famille comme résidence. C'était écrit en tout petit, but it was there. So, first of all, je veux remercier le comité symposium pour le travail énorme. It's a lot of work to put this together, and their day jobs are medical students like you guys. Donc, tout ce comité-là qui font partie de Family Medicine Student Interest Group, particulièrement remercier Pascal et Nadine que vous avez rencontrés et tout le comité. Remercier aussi Dr. Lenny Lala qui est responsable de pré-gradué pour notre département. Suzanne Gomez, notre coordinatrice qui est là aussi, qui a beaucoup aidé. Et au niveau de la faculté, Diana Colby, responsable de communication, et Léo Teatoro qui a aidé dans l'organisation de cette journée. Donc, il va y avoir des diapos en anglais, des diapos en français. Des fois, je vais parler en français, des fois, je vais parler en anglais. C'est à vous de décider quelle langue vous voulez écouter ou tranquillement fermer vos yeux. Donc, médecine de famille, une discipline qui s'impose. Family medicine, a discipline whose time has come. Donc, il y a un certain nombre de défis. Et en passant, je ne lis pas les diapos, là, c'est à vous de les lire si vous voulez. Je vais juste faire ressortir quelques points importants. Un peu des défis maintenant de notre siècle, le vieillissement de la population et des secteurs importants de population vulnérables. L'importance des maladies chroniques. C'est vraiment maladie chronique maintenant qui est connue comme the main driver of our healthcare system, mortalité, morbidité, utilisation des services et coûts. Développement technologique, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. Et la question de santé mondiale, global health. Et santé globale qui n'est plus la santé ou le problème des autres. Ça fait partie de notre système, des populations vulnérables au sein de notre propre société, mais aussi de notre responsabilité au niveau international. J'ai le privilège d'être en Botswana la semaine passée, où notre département a deux projets extrêmement importants, dont un qui cherche, par des interventions d'éducation sociale, de réduire l'infection par HIV pour des jeunes femmes. C'est fait partie de la médecine de première ligne du Québec d'avoir cette responsabilité. Et c'est un petit pays, je donne ça comme exemple, de 2 millions de personnes qui a une faculté de médecine et qui a un département de médecine de famille qui enseigne des résidents. Et je pense qu'on peut apprendre et aussi partager nos connaissances. Donc, de maladie aiguë, qui est toujours là évidemment, à maladie chronique importante, de un établissement et des réseaux de soins, un site unique à plusieurs sites. Un professionnel, généralement, c'était le médecin. Et je pense qu'on peut dire que j'ai quelque chose à vous dire, si vous ne savez pas encore. On n'est pas tout à fait le roi ou la reine dans le système de santé. Ça devient de plus en plus partagé. Et toutes les attentes, connaissances, implications des patients et familles, particulièrement avec l'Internet. Donc, on a un système très complexe, très interdépendant, beaucoup d'incertitudes. On voit aussi l'implication, certaines diraient ingérence, du gouvernement qui essaie de contrôler les coûts, qui essaie d'améliorer la performance, et qui, parfois, conduit à beaucoup de changements, et certaines diraient des changements continuels. Et on va en avoir, on annonce de changements qui s'en vient. Ça fait partie de qu'est-ce que nous vivons, qu'est-ce que vous allez vivre comme médecin. Mais où sont les patients? Je suis certain que vous avez passé, je ne sais pas, vous êtes, il y a première année, deuxième année, troisième année, y a-t-il le monde de quatrième année ici aussi? Oui? OK. Donc, je suis certain que vous avez passé la très, très grande majorité de votre temps ici dans, mon pointer ne marche pas, dans l'hôpital d'enseignement. Mais on voit le petit pourcentage de la population qui arrive dans un hôpital d'enseignement. Heureusement, avec des réformes de curriculum de plus en plus, comme dans notre faculté de médecine, on crée les conditions pour que les étudiants en médecine puissent voir des patients un peu plus largement dans la population, dans la communauté. Et ça, c'est extrêmement important. parce que c'est ces personnes-là que vous allez traiter, que vous allez voir en priorité. À travers tout ça, vieillissement de la population, maladies chroniques, où sont les patients, il y a un consensus. There's a consensus, a global consensus around the world, that primary care is the foundation of a sustainable healthcare system. And a structure like the medical home, qu'on appelle GMF au Québec, qu'on appelle Family Health Team en Ontario, il y a différents noms à travers le Canada, Medical Home aux États-Unis, Maison médicale en France, et peut-être on est le plus avancé, qui est en fait l'élément essentiel de cette notion de primary care comme le fondement of a sustainable healthcare system. Et il y a de l'évidence que les systèmes de santé qui ont strong primary care base are more effective and efficient and capable of controlling costs. So, more and more interest in developing, strengthening family medicine. So, I bet, who knows, who's ever heard of Dr. Welby? Raise your hands. Okay, we now know how old you are. Dr. Welby was a family doctor. It was a series on TV. I was only 1 year old when it was on. It was a series on TV, and he was a wonderful family doctor. And he would go and see his patients at home and sit down and have tea with them, even though they didn't really need to be seen at home. They looked perfectly capable of going to his office. And he was this ideal that we thought of, idealized family doctor, this wonderful relationship with his patients, and spend a lot of time with them, et cetera, et cetera. Of course, we kept seeing the same five patients for over 4 or 5 years that the series ran. But you get the idea. And then he hired this guy with the younger doctor who rode on a motorcycle. But anyways, so that's the good old days. Some people would say that this is what medicine is going to become. We're not going to touch patients anymore. We're just going to take a little piece of their body part and we're going to analyze their genetic makeup. And then with that, with the very complex databases, out is going to come the therapy. You know, you can now buy your entire genome, put it on a 8-gig drive, direct-to-consumer companies where, for instance, the wife of one of the Googles has a company called 23andMe. You can send some body part, and they'll then send you back your genetic makeup, tell you what you ate for supper last night, who you're going to meet tonight, et cetera, et cetera. So is Marcus Welby finally dead? Because Marcus Welby did die. Who remembers the name of the actor who played Marcus Welby? Robert Young. So he died. So is Marcus Welby finally dead? Is Marcus Welby finally dead? Est-ce qu'il y a cette contradiction between high-tech personalized medicine and humanistic personalized medicine? Are we in the area of biology and personalized medicine where the MD is the iPad techie, punching in the right formula, not touching the patient, and the physician as a healer becomes extinct? Well, Marcus Welby is dead. Robert Young did die. But I think we're in the era of both biology and public health. So the physician and the clinicians in general as agents, if you like, of both individual and population health. Competent technically and clinically, but compassionate and passionate physicians, working in interdisciplinary teams and working together with patients and families, and combining patient responsibility with both patient responsibility and community and population responsibility, and responsibility to the healthcare system. So it's become more complicated. It's become more complicated, and the challenge is all the more interesting. So, c'est quoi les groupes de médecine de famille? C'est quoi cette notion-là de groupe de médecine de famille? C'est quoi ces éléments essentiels où on a passé des médecins travaillant solo ou avec quelques autres personnes en partenariat à cette notion de groupe de médecine de famille. C'est d'abord une pratique de groupe, une pratique d'équipe, une pratique interdisciplinaire, où l'infirmière en particulier, mais d'autres qui jouent un rôle important, et une pratique aussi interspécialiste. Une approche centrée sur le patient, évidemment, personne ne va jamais dire « mon approche n'est pas centrée sur le patient », mais une approche où le patient doit jouer un rôle actif, engagé. Une approche aussi centrée sur la communauté où se trouve le patient. Des soins accessibles, et c'est un objectif important parce qu'il y a un problème d'accessibilité à l'heure actuelle. Proactif, qu'est-ce que je veux dire par proactif? En médecine, généralement, on est très bon à soigner la personne qui traverse le seuil de notre porte. Mais qu'est-ce qui se passe après que je rencontre Mme Pilon et je lui dis votre sucre est un peu élevé, faites attention avec votre diète, faites de l'exercice et viens me voir dans un mois après avoir pris une prise de sang. Mme Pilon sort, bon, je caricature, Mme Pilon sort, puis après on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas si elle va revenir, on n'a pas d'idée. La notion de proactif, c'est que si je suis dans un groupe de médecine de famille avec une population inscrite, je peux connaître ma population. Les personnes, par exemple, les 1500 personnes qui sont inscrites à moi, je peux les étudier avec des dossiers médicaux électroniques qui s'en viennent, c'est lent, mais ça s'en vient. On va en parler cet après-midi ou c'est plus tard ce matin, ça s'en vient. Mais on peut étudier cette population-là. Et on peut organiser des programmes en fonction de cette population-là. Alors, si on a une population, par exemple, avec des personnes de 60 ans qui ont beaucoup d'œil mauve, on peut décider de faire un programme de promotion de la santé et prévention autour des yeux mauves dans des personnes de 60 ans, etc. Revenir à Mme Pilon, c'est le nom de ma feu belle-mère. Revenir à Mme Pilon, qui sera une cas très intéressant de voir la trajectoire de quelqu'un avec diabète. Une notion proactive, ce sera de pas seulement dire « faites attention avec votre diète », mais là, Mme Pilon, vous allez voir notre infirmière praticienne ou clinicienne qui va s'asseoir avec vous et qui va parler de justement de diète. Et peut-être une nutritionniste aussi, quelqu'un qui va voir pour l'organisation d'exercice. Et qui va vous suivre, qui va rester en contact avec vous. Et vous n'aurez pas besoin de revenir voir le médecin dans un mois. Vous allez voir l'infirmière dans un mois, dans deux mois, peut-être le médecin juste dans un an, parce que la plupart peut être faite par l'infirmière. Voyez un peu la notion. Donc, cette notion de responsabilité populationnelle et communautaire avec cette population inscrite, l'intégration de promotion de la santé, la rémunération va changer, va être en évolution, et l'utilisation très importante du dossier médical électronique. Donc, un modèle de soins collaboratifs, utilisant le modèle de soins chroniques, où le médecin de famille avec l'infirmière, avec d'autres professionnels, travaillent en partenariat avec le patient et la famille. Donc, une pratique de médecine qui évolue dans cette direction. Donc, family medicine, a constant evolution, recognized as a specialty in 2009. It's a government priority practically all over the world. China just discovered that they don't have really good primary medical care, so they've given themselves the objective of training 300,000 primary care physicians between now and 2020. Of course, on a population basis, that would be two more physicians in Quebec. But it's still a lot of people. It's still a lot of people. Primary care research is receiving much more funding now than ever before, and family medicine has become an academic priority in all our faculties of medicine, maybe even the University of Ottawa. But in all our faculties of medicine in Quebec, I know less of the University of Ottawa, but I'm sure it's the same thing. And Dean Eidelman is going to speak a little bit later, and there he is. So this is the first interview that Dean Eidelman gave in Le Devoir, et c'était quoi? L'Université de McGill valorise la médecine familiale. Ça, c'est une transformation. C'est une transformation importante. Donc, je vais vous donner une idée, puis ça pourrait être n'importe lequel de vos départements de médecine de famille. Comment on voit l'objectif, les objectifs de notre département? Nos départements doivent contribuer à la santé de la population et la durabilité du système de santé au Québec, au Canada, puis à l'échelle internationale. Et je trouve que c'est important d'avoir ces perspectives-là internationales. Notre core business, c'est la formation des résidents. Ça, c'est sûr. Et on veut vous donner le goût de s'engager et la préparation de s'engager dans une pratique de GMF, une pratique globale. On veut que nous soyons des innovateurs dans la prestation et l'organisation des services. And here's the other part of what we do, is developing new knowledge through research and scholarly activities, developing new knowledge and their application in our healthcare system, developing innovation in training and research and education, and training family physicians to be clinician scientists and to be clinician teachers. And of course, as I said, engagement au niveau de la santé mondiale. Donc, nos unités de médecine de famille sont en fait des centres de médecine de famille universitaires, des milieux d'innovation dans le domaine des soins, de la formation et de la recherche. Are we perfect? Are we exactly there? No. But that's the direction that has been developing over many years. Donc, juste pour dire, parce que je pense que j'arrive à peu près à la fin, nos départements de médecine de famille, c'est pas une annonce que je fais, là. Mais nos départements de médecine de famille ont des activités académiques très diversifiées. Comme j'ai dit, la formation des résidents, c'est notre core business. Mais aussi, on est très actif dans la formation des étudiants en médecine et d'autres professionnels. Et à McGill, puis vous avez probablement l'équivalent dans les autres départements, on a ce qu'on appelle the Longitudinal Family Medicine Experience, où chaque étudiant en médecine première année doit passer une demi-journée deux fois par mois toute la première année dans le bureau d'une même médecine de famille. Et pour la plupart, c'est des médecins de famille dans la communauté et pas des médecins de famille dans l'UMF. Donc, il fallait trouver 195 places pour placer. C'est pour ça que Lenny Lala parfois est un peu pâle et faible, et Suzanne Gomez aussi. Mais il fallait trouver 195 places pour des étudiants en médecine. Et c'est une expérience extrêmement enrichissante, à la fois pour les étudiants, puis à la fois pour les médecins de famille qui les reçoivent. Dans notre département en particulier, on a aussi la formation des étudiants. On a un programme de maîtrise reconnu, un programme de maîtrise en médecine de famille, un programme de maîtrise qui est reconnu et qui est un programme de maîtrise de recherche. On a aussi un programme de PhD. Et dans notre département, pour vous donner une idée, on a cette année une quarantaine d'étudiants gradués en maîtrise, en PhD ou en études postdoctorales. Je vous donne une idée un peu du développement de médecine de famille comme une discipline académique. Beaucoup de recherches qui se fait, c'est pas juste chez nous, dans tous les départements de médecine de famille, de recherches qui se fait par des chercheurs PhD. Par exemple, dans notre département, on a des professeurs, une dizaine de professeurs PhD, pas des médecins, PhD, mais aussi par des médecins, ce qu'on appelle des chercheurs cliniciens. Ce sont des médecins de famille qui font 50% travail clinique et 80% travail de recherche, qui contribuent au développement de la connaissance et de leur application dans notre système de santé. Des activités de développement professoral et développement professionnel continu, et finalement le programme de santé international, comme j'ai mentionné. Moi, j'ai eu un certain nombre de mentors à travers ma vie et ma carrière, et vous le connaissez, ce monsieur-là. He said something very, very interesting. He said, I skate where the puck will be. Hein? C'est cette notion d'anticipation. Hein? I played hockey when I was younger. I skated where the puck was. So by the time I got there, the puck wasn't there anymore, right? And that's why I had to go into medicine. Donc la notion « I skate where the puck will be », c'est cette sens d'anticipation. Je vous invite donc de patiner là où le rondelle sera, « where the puck will be », et de penser à une carrière en médecine de famille où il y a beaucoup d'opportunités de choix et de diversité. On peut être un clinicien au sein de la communauté avec possibilité de pratiques diversifiées, incluant une pratique hospitalière. On peut même, dans la communauté, participer, comme dans le Longitudinal Family Medicine Experience, à l'enseignement et même à la recherche. Une carrière académique comme chercheur clinicien, clinicien enseignant, et finalement, une carrière en santé mondiale. Donc, skate where the puck will be, parce que je pense que l'avenir, d'une certaine façon, appartient à la médecine de première ligne, dans notre système de santé. Et donc, je vous invite à considérer ça comme carrière que je peux vous assurer peut mener à beaucoup de possibilités très, très excitantes. Donc, merci beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée.
Thank you, Dr. Bergman, for this great speech, as usual. Here's a little gift from the committee for thanking. Just, you did so much for us. Thank you. Okay, so thank you all for listening. Now we're going to go on to our second speech. I have the honor of presenting our keynote speaker, so the Dean of Medicine, Dr. Eidelman. So just a little biography of him before starting. So a McGill graduate and native Montrealer, Dr. David Eidelman is Vice Principal and Dean of the Faculty of Medicine at McGill University. He is also President of the Réseau Universitaire Intégré de Santé McGill, a network mandated by the Quebec government to coordinate healthcare, training, and research across 63% of the province's landmass. Prior to his appointment in January 1, 2012, Dr. Eidelman served as chair of the McGill Department of Family Medicine and physician-in-chief at the McGill University Health Center, so the MUHC, and that for 7 years. As chair, he was responsible for overseeing the largest clinical department of the McGill Faculty of Medicine and its academic network, which include the MUHC, the Jewish General Hospital, St. Mary's Hospital Center, and the Douglas Mental Health University Institute, among other partners. In addition to his administrative successes as chair and physician-in-chief, Dr. Eidelman has served as director of McGill's renowned Division of Respiratory Diseases. After receiving his MD/CM degree in 1979, Dr. Eidelman continued training in internal medicine at the University of Toronto, first at St. Michael's Hospital, then at Toronto General Hospital. He returned to Montreal to pursue advanced training in respiratory medicine and research at McGill. He is an accomplished clinician scientist whose research in inflammatory disorders of the airways is based at the Meekins Christie Laboratory in Montreal. Dr. Eidelman is active in clinical medicine and research in Canada as well as internationally. So please, everyone, welcome the Dean, Dr. Eidelman.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon matin à tout le monde. À l'instar de Dr. Bergman, je parlerai tantôt en français and sometimes in English. La différence, c'est que je préfère la radio à la télévision, donc il n'y aurait pas de diapo pour moi. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici à McGill pour ce symposium. Je choisis la médecine familiale qui en est maintenant dans sa 6e année. Et c'est vraiment inspirant de savoir que je m'adresse à ceux qui seront à l'avant-plan des soins de santé au cours des prochaines années et des étudiants en médecine qui sont prêts à sacrifier leur samedi pour venir ici m'écouter. Là. J'aimerais souhaiter la bienvenue officielle à les invités des universités sœurs, soit l'Université Laval, l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke et l'Université d'Ottawa. Et surtout à nos étudiants et collègues McGillois et à nos partenaires qu'on a mentionnés tantôt. Et il est évident que la passion pour les soins de première ligne n'est pas exclusive à notre université, en voyant tous vous autres. But the real question is, what am I doing here on Saturday morning, talking to you guys? I actually, you guys have all heard of the imposter syndrome, and I get a real feeling of the imposter syndrome when I speak at things like this, because I come from a background that could not be more unlike family medicine if you tried. You know, I spent my entire career in an academic healthcare center. I was in university hospitals, university labs. I worked as a scientist. I worked on bench research, sort of with mice and rats and cells and things like that. Very far from the bedside. I did practice medicine. I still have a few patients. But I did so as a specialist, sometimes as a super specialist, only seeing referrals from specialists. So where do I come to be here in a family medicine forum this morning? Alors, tout d'abord, je suis ici parce que je suis doyen. Alors, comme doyen, on est invité à adresser toutes sortes de personnes, des fois des gens de l'extérieur de Québec, des fois, la semaine passée, j'étais au FR, il y avait le 50e anniversaire de FRQS, il y avait des invités d'Arabie Saoudite, et ce matin, je suis ici avec vous autres. Et certainement, c'est Nadine et Pascal qui m'ont invité, alors je les remercie. But I'm also here because I wanted to share with you a story of how I became a passionate advocate for primary care and for family medicine specifically. It goes back to when I was chief of the Department of Medicine. And I was asked by then Dean Levin to participate in his strategic planning process. Those of you who have ever been involved in undergraduate education know that in order to remain a medical school, you always have to have a strategic planning process, even if you don't want one. So he wisely thought we needed a strategic planning process on undergraduate medicine, on MD training. And he said, you know, I want you to be one of the leaders in this. I said, great, this is fantastic. I have great ideas about research, how we have to do our research, strategic planning. It's going to be fantastic. He said, I want you to help head up the planning of the new medical school curriculum. And I was stunned. Because I knew, A, I didn't know anything about teaching undergraduate other than the classes I had led, and I really wanted to be on the research committee. And that was, I wasn't so happy. Now, you know that we do have a new curriculum. So something happened between when I was asked and when I got on, when the curriculum was created that caused a change. You know, our curriculum is very focused on family medicine. Howard just told you that we have longitudinal family medicine experience. Lenny Lala does her thing. Our students, I know some of them are in the audience. Last year, we documented 18,000 patient interactions in first year alone, all in primary care. This is a huge change from when I was a student here in 1853, where we had anatomy for half the year and things like that. So what happened? Well, I was on a committee with someone named Joyce Pickering that many of you will know. Joyce Pickering was then the associate dean for undergrad, and she eventually came to be come to work with me as vice chair of the Department of Medicine for Education. And Joyce had one key advantage over me. She actually knew something about the topic, and in particular, she knew something that was wrong with our curriculum, and which was wrong with traditional curricula, which was ours was based on what academics thought medical students should know rather than what the community really needed from medical students and doctors when they finished. And she, with some difficulty, convinced me and the chair of physiology that in fact what we needed in a medical school was something that would produce graduates who would meet the needs of our society. And I have to say that this was a very good thing because I didn't know at the time I'd be dean, but for a dean, this is a real plus to know something about undergrad medical curriculum, as you can imagine. And also, much more practically, as Dr. Bergman shared with you, we are living through one of the most important demographic shifts that we've seen in the industrialized world. Our societies, Western societies, are following the route of Japan. Quebec is right up there with Japan among aging societies. Many of the diseases that I treated as acute diseases as a student are now chronic diseases. Dr. Bergman showed you pictures of, people wearing lab coats and using test tubes, and talked about personalized medicine. These are going to change everything about how we practice. But they're not going to change the needs of the patient, which is to have a team, or at least a physician and their colleagues, who are focused on the needs of that patient. And I finally came to understand that and became a convert to the importance of first line, première ligne, in the care of patients. I sort of became a born-again doctor. And this is a big leap for me, because I was a typical internal medicine nerd kind of person. I actually grew up at a time when my chair of medicine, Dr. Professor Macklem, who some older people in the room will remember, is a very, very famous lung doctor. He was one of my mentors. Said, you don't need family medicine. The internists will look after everything. And this was before, of course, family medicine was a specialty. I believe now that it's clear that family medicine is the key specialty, and I've become a strong advocate for it. Alors, bien entendu, cette modernisation de notre programme de formation médicale ne s'est pas produite sans certaines objections. Plusieurs de mes collègues ont souligné qu'on est à McGill. McGill, c'est une université connue pour sa recherche médicale. McGill est connu, il y a une intensité de recherche, et ils ont allégué que en promouvoir la médecine familiale, la première ligne, on va abandonner l'excellence académique. Alors moi, j'étais dans les groupes de consultation. Il y avait des gens qui disaient ça. Moi, honnêtement, j'en savais pas grand-chose. Mais comme je suis très bon pour donner des discours et faire des plaidoirs, alors moi, j'ai dit, sans évidence, j'ai dit, pourquoi la médecine familiale ne peut pas être comme les autres spécialités? Il n'y a rien qui empêche la médecine familiale d'être académique, de faire la recherche, autant que la pédagogie. OK. Et ça, c'est sans savoir que vraiment, à McGill, comme Howard a déjà montré, c'est bien possible de faire ça. C'est bien possible d'avoir un département de médecine familiale qui voit aux besoins des patients, qui est basé sur les activités cliniques axées sur le patient, et en même temps d'être à la fine pointe de la recherche. Et c'est ça, grâce à Howard et son équipe. Comme vous avez vu là, il y a maintenant, par exemple, des études supérieures en médecine familiale. Ça existait déjà, c'est une première pour le Canada, et c'est vraiment à l'avant-garde de la première ligne partout au monde. Et ce programme des études supérieures n'est pas seulement un programme des études supérieures, mais la directrice de ce programme, professeur Jillian Bartlett, a été identifiée comme la meilleure directeur d'un programme des études supérieures à l'Université McGill l'année passée, soulignant l'importance qu'accorde l'Université McGill à ce domaine de recherche. Donc, pour moi, c'est très important de souligner que, en tant que doyen, je ne vois pas la médecine familiale comme un besoin. Je sais que des fois, quand on est assis avec les représentants du ministère de la Santé, on peut penser que la médecine familiale, ça existe seulement pour combler les trous dans les gardes dans certains hôpitaux, qui, pour moi, est tout à fait faux comme une raison d'être pour la médecine familiale. La médecine familiale, ça relève des besoins de la société, et c'est vraiment absolument nécessaire pour notre avenir. Alors, Paul Valéry a dit, l'avenir est comme le reste, il n'est plus ce qu'il était. And for English speakers, this was rendered into English by the famous baseball philosopher Yogi Berra as, the future ain't what it used to be. Okay? And much of the organization of the current healthcare system, at least up till now, is really based on ideas that date back a long time, even centuries. The 20th century, when I became a doctor, was marked by the rise of hospitals as the center of healthcare. And people who grew up, when I grew up, we always had to go to a hospital. The 21st century, the beginning of it, has seen the academic health centers, what we call in Quebec the CHU. And we're getting two new ones very soon. But as Howard described, there is a great need and a place for a complementary model that's built around networks and integrated networks of healthcare. Some of you who, I guess there's people from Ottawa, but the people who are here from Quebec will almost certainly have seen the newspaper La Presse on Friday, that's yesterday, in which there were rumors about what's going to happen to our healthcare system. So as a dean, I'm of course in a privileged position to hear the rumors about one day before they get into the newspaper, and I can tell you that there will be big changes coming. I'm not going to go into those changes, but it's important to note that they're all based on the centrality of primary care. We're going to be seeing a reorganization of the healthcare system in which people like you are going to be at its very center. So just to finish up, I want to say that pour moi, il y a des grandes opportunités en médecine familiale. Pour notre université, la médecine familiale est un département phare, c'est un programme phare pour nous. Une chose qui nous croyons, à laquelle on croit vraiment. Et je vous encourage dans votre choix de carrière. Médecine familiale, c'est le futur. I just want to finish by congratulating Nadine and Pascal, the many committees behind the scenes, those who are here who organized the previous symposiums. And j'aimerais remercier tous les membres des facultés de médecine qui se sont joints à nous pour cette journée, ainsi que nos organismes partenaires, présentateurs, animateurs, les ateliers, et aussi vous autres qui ont sacrifié votre samedi pour la cause du futur de votre carrière. Merci beaucoup.
Thank you very much, Dr. Eidelman. So we have decided to make a donation to the class of 1979 reunion fund in your name in the amount of $100. Thank you very much. Alors, pour boucler la boucle, j'ai juste un petit message que j'ai omis de dire tout à l'heure. N'oubliez pas de laisser vos affaires sur vous. Nous ne sommes pas responsables en cas de perte ou de vol. Et puis, surtout, nous espérons qu'à la fin de la journée, vous direz tous « Je choisis la médecine de famille ». Nous vous souhaitons un excellent symposium.
So, just to finish, thank you everyone for listening. We had great speeches, so thank you everyone. And please, have a great day, and we hope that at the end of the day, you'll be able to say « I choose family medicine ».